Session Les Trois Sagesses par le Père Marie-Dominique Philippe, le 27 septembre de l'an 2000 à Saint-Jodard.
Répondre d'abord aux questions. Pourquoi dites-vous que la théologie biblique et la théologie de l'Église ne sont pas sagesse ? Sont-elles des instruments, uniquement des instruments, ou même peut-être de l'exégèse? Non, ce n'est pas de l'exégèse. L'exégèse est une science. C'est enlever la plure, n'est-ce pas, et préciser le sens technique, scientifique du beau, d'où il vient dans la langue. Ça reste humain. C'est pour ça que l'exégèse est la même pour le protestant et pour le catholique. Ce qui montre bien que ce n'est pas une sagesse. C'est une science. Alors, ce qu'il faut préciser, il faut dire, ce n'est pas une sagesse parfaite. Parce que c'est vrai, tout ce qui est théologique est science et sagesse. Puisque la foi est une connaissance sapientiale. Donc tout ce qui touche la foi directement et qui est engagé dans la foi sera nécessairement sagesse. Mais elle ne sera pas parfaite. Parce qu'on n'en voit pas le terme. Vous comprenez ? Le terme, c'est Jésus. Pour la Bible, on attend Jésus. Le terme de l'Église, c'est le retour du Christ. Et le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Or, théologie biblique, c'est ce qui se passe dans ce monde. Il n'y aura pas de théologie biblique dans le ciel. Il n'y aura pas de théologie de l'Église dans le ciel. Tandis que la sagesse scientifique restera et la sagesse mystique resteront. Si vous voulez prendre, pour comprendre ce que je voulais dire, parce que je désire qu'il n'y ait pas d'équivoque, dire que c'est sagesse, oui c'est sagesse, puisque c'est à partir de la foi, mais ce n'est pas dans un état de perfection, puisqu'elle n'atteint pas son terme. La sagesse biblique reste attachée au développement de la révélation. C'est le développement de la révélation par la parole de Dieu qu'on regarde. Comment progressivement un thème révélé s'est développé? Le thème du prophète, du père, du fils, de la vie divine en nous, la foi, l'espérance, la charité. Donc, disons, ce n'est pas une sagesse parfaite. Si la théologie biblique n'est pas sagesse, ne risque-t-elle pas de se ramener à une simple exégèse scientifique ? Oui, tout à fait. Elle est sagesse parce qu'elle dépend de la foi. Mais elle regarde dans la foi quelque chose de limité, le développement de la révélation. C'est la manière dont Dieu nous a révélé progressivement son mystère. C'est la manière dont l'Église, avec Marie, avec les saints, garde la parole de Dieu, la tradition. La parole de Dieu gardée dans le cœur des saints. Et elle ne se termine quand la venue du Christ, le royaume de Dieu. Si du reste, si vous réfléchissez bien et que vous comprenez parfaitement ce que c'est qu'une philosophie sapientielle qui se met au service de la foi. Que regardez-vous dans la parole de Dieu au point de vue théologie biblique? Que regardez-vous dans la parole de Dieu quand vous regardez la théologie de l'Église? Ce n'est pas l'enseignement, l'intelligibilité, ce n'est pas l'amour. La métaphysique n'a du reste que deux principes propres de l'être, la substance et l'acte. Rien dans l'ordre du devenir, rien dans l'ordre de la croissance de la vie. Il n'y a que deux principes propres, substance et devoir. Eh bien, c'est une petite indication que la substance, c'est l'intelligibilité de la chose. Et l'acte, c'est sa finalité. Théologie scientifique, je cherche l'intelligibilité de la parole de Dieu. Théologie mystique, je cherche l'amour. Alors, pour bien comprendre ça, il faut comprendre que toute théologie implique un aspect scientifique et un aspect sagesse. Cet aspect scientifique et sagesse est différent comme composition dans la théologie scientifique, dans la théologie biblique, dans la théologie de l'Église, dans la théologie mystique. Dans la théologie scientifique, elle est d'abord scientifique, et elle s'épanouit en sagesse. Dans la théologie biblique, elle est scientifique jusqu'au bout. J'essaie d'étudier le devenir de la parole de Dieu. Dieu a voulu qu'il y ait un devenir dans sa parole, un épanouissement. Ce n'est pas de la même façon la révélation. Autrement dit, la révélation a une modalité différente quand Dieu parle à Abraham et quand Dieu parle à Jean-Baptiste. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir ces différentes modalités, la manière dont Dieu parle à Osée, à Amos, à Isaïe, à Ézéchiel, les modalités, la manière différente dont Dieu parle à David. C'est vrai, sur des modalités différentes, et c'est très intéressant de regarder ces diverses modalités. Qu'est la parole de Dieu à Abraham? Qu'est-ce que c'est qu'est la parole de Dieu dans Jean-Baptiste? La parole et l'action, puisqu'il y a une action. C'est dans une action, c'est dans un peuple. La parole différente de Dieu, dans l'Église, dans les actes des apôtres, et dans l'Église aujourd'hui. Reconnaissez-vous l'Église des actes des apôtres, un seul cœur, une seule âme pour la communauté chrétienne et dans l'Église aujourd'hui. La communauté chrétienne dans une paroisse, la communauté chrétienne dans le pèlerinage du JMJ à Rome. Cette diversité, si j'étudie l'Église, j'étudie le devenir dans l'Église. C'est la croissance. L'Église, c'est le lieu de la croissance. Tout est fait pour la croissance. Pour que la croissance puisse être le plus parfaite possible. Autrement dit, vous voyez, on relève le défi du Christ. Quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il encore la foi ? Le souci principal de l'Église, c'est de relever ce défi. Oui, Seigneur, il y aura encore la foi. Il y aura un petit groupe qui garde la foi. Et ça devrait être la grande question constante de l'Église. Où y a-t-il le plus de foi, dans quelle communauté chrétienne ? Est-ce que c'est à Saint-Jean ? Est-ce que c'est à Bethléem ? Est-ce que c'est dans une communauté de franciscains ? Dans les didascères de Rome ? Dans le bureau de monsieur le curé d'une grosse paroisse de Paris. On devrait pouvoir juger exactement où la foi est à l'état naïf, à l'état d'une vraie foi. C'est par la foi qu'on est vainqueur du monde. Une foi victorieuse, une foi conquérante, une foi qui ne s'arrête pas au conditionnement politique. Elle est victorieuse, elle est au-dessus. Voyez ce que je veux dire pour vous montrer que la théologie biblique et la théologie de l'Église sont des dispositions merveilleuses, des dispositions sapientielles pour que la foi puisse s'épanouir pleinement dans une intelligibilité toujours plus profonde. Et pour que l'amour puisse se réaliser dans une liberté toujours plus grande. La foi est-elle nécessaire pour faire de la théologie biblique, étant donné que cette dernière n'est pas la sagesse ? Voyez. J'ai pas dit, elle n'est pas la sagesse. Elle est une sagesse imparfaite. Elle développe la croissance d'une théologie sapientielle. Elle développe la croissance. Elle développe le développement de la révélation, du point de départ de l'une théologie. Et la théologie de l'Église développe le terme de cette communauté qui est en attente du retour du Christ. Alors maintenant, on va essayer de parler de ce que représente cette théologie d'une sagesse mystique. La théologie mystique, sapientielle, ultime. Pour vous montrer combien elle est nécessaire, d'abord, puisque certains la nient et disent que la spiritualité suffit. Je dirais non, parce que la théologie scientifique laisse tomber le langage symbolique qui tient une telle place chez les prophètes et même avec Jésus, quand Jésus parle en se servant des symboles, des mythes. On récupère dans la théologie mystique, on récupère tout ce qu'il y a de symbolique dans la parole de Dieu. Parce que le symbole peut exprimer plus facilement l'amour que la science. La science est toujours alourdie par la logique. En science, j'ai pas le droit de faire de fautes logiques. Un poète, un prophète, ça lui est égal. Il est au-dessus. Il regarde l'amour. Regardez la logique dans le Cantique des Cantiques. C'est fameux. Alors vous direz, Cantique des Cantiques. Oui, saint Thomas le cite dans son traité de la charité. C'est sûr, mais très peu, très peu. Il y a une richesse qu'il faut abandonner alors. Alors pourquoi Dieu nous l'a donnée ? La théologie mystique ramasse les miettes, si je peux appeler ça des miettes. Avec des miettes, il y a des gros morceaux. Parce que le livre des cantiques, quand même. Il y a tout un symbolisme merveilleux que la théologie mystique doit garder. Donc, il n'y aurait que ça comme raison, c'est suffisant pour que la théologie mystique existe. C'est ce que saint Thomas note dans les noms divins. C'est vrai, la théologie scientifique ne s'occupe pas beaucoup des symboliques. Dans la théologie rigoureuse, scientifique de saint Thomas sur la très sainte Trinité, c'est le Verbe et le Fils. Voilà les deux analogies. Il y a le pain, il y a le vigneron, il y a l'agneau, il y a le souffle, il y a le paraclet. Alors il faut laisser tomber ça. Dans le traité scientifique, de théologie scientifique sur la très sainte Trinité, pas un seul mot sur le paraclet. C'est quand même ennuyeux. Je me souviens, ce bon père canadien, dominicain, qui avait suivi tout le cycle des études ce soir, et qui disait au terme, la théologie c'est une purge. Vous voyez ce qu'il voulait dire ? C'est regarder la parole de Dieu dans ce qu'elle a de substantiel et laisser tomber les choses secondes. Mais comme ces choses secondes restent quelque chose de divin, sont des symboles divins, sont des mythes divins. Quand je regarde la création de l'homme, la création de la femme, vous n'allez pas me dire, oh, ça n'a aucune importance. Ah non, pas du tout. Ça a beaucoup d'importance, la manière dont Dieu nous révèle cette création. Donc, première raison, vous voyez, et encore une fois, c'est suffisant. Hein, parce que je n'ai pas le droit de perdre quelque chose de la parole de Dieu. J'ai regardé le devenir de la parole de Dieu, j'ai regardé la croissance de cette parole de Dieu dans ce que représente la tradition. Et je dois être attentif à toutes ces figures, tous ces symboles dont on se sert. Je n'ai pas le droit de laisser tomber, quand je vois le traité du Christ, tous les symboles des quatre vivants dans l'Apocalypse. Je dois essayer de les garder et à leur place. Et c'est dans une théologie mystique que je pourrais les mettre à leur place. Parce que je les aurais étudiés. Tandis qu'autrement, on les laisse tomber. Oh, ça, c'est théologie biblique. Mais non, la théologie biblique, c'est pas ça. C'est le développement. C'est pas la même chose. Tandis que là, on regarde le symbole en lui-même. Il a quelque chose de spécial. Et je ne dis pas théologie symbolique, hein, parce que certains disent ça, une théologie symbolique, on recueille tous les symboles. Non, les symboles sont faits en vue de quelque chose. Et c'est en vue de quelque chose qui m'intéresse. C'est pour exprimer la valeur affective, aimante, qui n'est pas exprimée par un langage plus direct. Deuxième raison, c'est que la parole de Dieu en elle-même est ordonnée à l'amour. Verbum spirans amorem. Le verbe spire l'amour. Et donc, je ne regarderai pas jusqu'au bout la signification de la parole de Dieu si je n'ai pas une théologie mystique. Et je reprends ce que je vous disais ce matin, la comparaison de Catherine de Sienne. Le fruit dernier de la parole de Dieu, c'est le secret. Vous savez bien, dans votre vie, la première fois qu'on vous a dit, quand vous étiez jeune, un secret important, un secret de famille. Un frère aîné qui allait se marier, on l'a pas dit, c'est pas officiel encore, mais à toi je le dis. Mais surtout, n'en parle pas. Le secret. Et le secret, pour celui qui le reçoit, est très important. Parce que c'est une marque de confiance. La première fois que j'ai reçu un secret, j'étais jeune, 13 ans, 14 ans. Ah, la personnalité a poussé. Je dois garder le secret. Je ne peux pas dire ça à tout le monde. Je garde dans mon intelligence et mon amour. Un secret, ce n'est pas l'universel. Par définition, l'universel n'est pas un secret. L'universel, il demande de se communiquer. Il se communique à tous. Il peut se communiquer à tous. Il suffit qu'on comprenne sa signification. Tandis qu'un secret, non ? Pourquoi ? Comment se fait-il qu'un secret ne se communique pas ? Parce que c'est un secret et personnel. Il y a une individuation très particulière qui se fait dans la connaissance. Et c'est pour ça, du reste, qu'il y a des symboles. Parce que ça se communique et ça se cache. En temps de guerre, on sait très bien qu'il y a ces procédés tout à fait particuliers pour échapper au regard de l'ennemi. On fait des figures particulières dans les vêtements pour tromper l'ennemi. Le secret qu'on n'a pas le droit de communiquer et qu'on garde pour soi. Or, la parole de Dieu, elle est en dernier lieu tout à fait personnelle pour chacun d'entre nous. Si on ne garde la parole de Dieu que ce qu'il y a d'universel pour tout le monde, on n'a pas compris jusqu'au bout la révélation. La révélation regarde le bonheur personnel de chacun d'entre nous. La foi a quelque chose de tout à fait personnel qui regarde chacun d'entre nous. Ma foi est toute ordonnée à ma béatitude, à la vision béatifique. Et le chemin vers cette vision béatifique reste secret. Il y a quelque chose d'universel qui peut se dire à tout le monde, puis il y a quelque chose de secret. On comprend beaucoup mieux ce qu'on doit communiquer à tous, les symboles de foi, qui est justement ce qu'on doit communiquer à tous. Tout chrétien doit savoir ça. Et puis, le secret particulier. Et ce qui est très curieux, c'est que ce qui est commun à tout le monde nourrit notre foi. Mais lorsque la lutte est particulièrement violente contre la foi, la parole communiquée à tout le monde n'a pas assez de force pour lutter. Parce que l'universel ne nourrit pas la foi, ne nourrit pas l'amour. La logique n'a rien à faire avec l'amour. Rien du tout. Et quand la théologie devient trop logique, elle se coupe de l'amour. Elle a besoin de comprendre qu'elle doit s'achever en théologie mystique. Et la théologie mystique va toucher ce qu'il y a de plus personnel. Quand quelqu'un est en lutte par rapport à sa foi, par rapport à sa vocation, s'il ne comprend pas que justement la vocation est un secret personnel entre lui et Dieu, il se laissera avoir par des psychologues qui expliqueront très bien comment ils se sont trompés. La psychologie ne peut rien dire lorsqu'on touche le secret personnel. On dira simplement, et c'est très important comme remarque, que seul le secret engendre le silence. Et je dirais, seul le secret engendre la force. C'est le silence qui est ma force. Le silence, non pas ascétique, mais le silence mystique, celui qui se nourrit à partir, qui se nourrit des secrets, des paroles d'amour que Dieu m'a données et qui sont ma force et qui sont mon soutien. C'est pour ça que la théologie mystique est si importante. Et quand l'Église n'a plus de théologie mystique, l'Église n'a plus cette intériorité qui est sa victoire et qui est sa force. Là, il y a une raison très importante, c'est que vous étudiez la parole de Dieu, la parole divine, verbum spirans amorem. La parole humaine n'est pas toujours spirans amorem. Mais la parole divine, toujours. C'est pour ça que je peux dire que chaque parole de Dieu est pour moi un secret. Et tant que je n'ai pas découvert ce secret, je dois le chercher. Et ce n'est pas du tout ramener la parole de Dieu à quelque chose d'individuel, non. C'est chercher le caractère individuel d'une parole universelle. Ce n'est pas la même chose. La parole divine reste toujours une parole divine. Alors, comprenons bien que la théologie mystique doit se développer à partir de tous les grands mystères qui viennent d'en haut. Ce n'est pas la partie morale de la théologie, la partie anthropomorphique de la théologie qui me fera comprendre immédiatement la nécessité d'une théologie mystique, mais la partie contemplative de la théologie, me fera comprendre que c'est vrai, la théologie a comme but principal de connaître la vie de Dieu. et de faire comprendre que cette vie de Dieu, c'est ma vie. Et de me faire comprendre que cette vie de Dieu qui est ma vie, elle a quelque chose d'unique pour moi, parce qu'elle est divine. Et elle a quelque chose d'universel pour tous les hommes, parce qu'elle est divine. Dans le divin, il n'y a pas de distinction entre le singulier et l'universel. Dieu, dans son être, est l'être le plus singulier qui soit. Et l'être le plus universel qui peut être. Universel surtout par son activité, la création. Et singulier surtout dans sa personne. Alors, nous pouvons en dernier lieu montrer l'importance de la théologie mystique en montrant que si on supprime la théologie mystique, et qu'on n'a plus que la théologie scientifique, et la théologie biblique, la théologie de l'Église, la théologie scientifique reste appuyée sur la forme scientifique et logique parce que elle n'a plus assez d'audace pour s'appuyer sur Dieu et s'appuyer sur le Christ. Elle ne se développe pas dans ce qu'elle a de plus secret, de plus divin. Parce que c'est sûr que lorsque on contemple Dieu, cette contemplation de Dieu a plus besoin d'amour que de lumière. Et donc, si elle n'a pas ce renouveau constant de l'amour, elle va chercher un appui dans ce qu'il y a de plus sûr, de plus certain, dans la connaissance, la logique. Une théologie scientifique qui s'achève en théologie mystique a un appui divin d'amour par le mystère de la très sainte Trinité, par le mystère de l'incarnation. Par le mystère de l'Église, de mes frères. Et alors, c'est justement cette théologie mystique qui me donne une connaissance de l'Église avant tout sapientiale. Sapientielle. L'aspect scientifique m'intéresse, il m'intéressera toujours, et il n'est pas ultime. Il n'est pas jusqu'au bout. Si la théologie mystique est supprimée, très vite, la théologie scientifique se stabilisera, se lui, se stabilisera par la logique. Elle ne pourra plus se stabiliser en Dieu, dans le mystère. Parce que je n'aurai plus une connaissance du mystère de Dieu suffisamment personnelle, suffisamment intime. Ça, c'est un fait. C'est ce qu'on voit. La théologie mystique ne s'est pas développée dans l'Église romaine, ou très peu développée. Constamment, on a dit avec un peu de mépris, ah, ça c'est de la spiritualité, ce n'est pas de la théologie. En disant ça, on voulait dire, c'est la spiritualité d'une personne, d'un ordre, mais ce n'est pas la théologie. Parce que les théologiens ont été paresseux. Et c'est vrai, ils sont paresseux. La scolastique a développé tout le temps la théologie scientifique de saint Thomas. Un des plus spirituels dans la scolastique, thomiste, c'est Jean de saint Thomas. Mais Jean de saint Thomas demeure encore dans une scolastique, dans une théologie scientifique, et tous les problèmes qui pourraient se développer dans une théologie mystique sont arrêtés. Je crois que ce phénomène très net, hein, historiquement, c'est très net, que les grands théologiens se sont contentés de développer saint Thomas, d'être des commentateurs de saint Thomas. Si grand que soit saint Thomas, être commentateur de saint Thomas, c'est n'être pas théologien. On est commentateur d'un livre. Saint Thomas n'a jamais enseigné la somme théologique. Saint Thomas enseignait l'écriture d'une façon spéculative et d'une façon mystique. Constamment, saint Thomas, dans ses commentaires scientifiques, dit le petit passage « mystice », qui fait de la théologie mystique. Il lui était demandé de faire une théologie scientifique, il en a fait une, et il a fait, même pour les commençants, un manuel merveilleux, qui est la somme théologique, mais il ne l'a jamais enseigné. Parce que commenter la somme, c'est très bien pour former des théologiens auprès de Thomas d'Aquin, mais ce n'est pas la théologie. Parce que on se sert de Thomas d'Aquin et on a raison de s'en servir. Et même si on le répète, le tout c'est de le comprendre. Si on le répète en essayant de le comprendre, on forme et on forme d'autres théologiens. Mais on est formateur d'autres théologiens en enseignant. On n'est pas théologien. Et c'est comme le philosophe qui commenterait Aristote et qui se contenterait de commenter Aristote sans revenir à l'expérience, sans revenir à son expérience, mais ne serait pas un philosophe. Il serait un commentateur d'un philosophe. La sagesse demande de se développer pour elle-même et non pas d'être au service d'un autre. C'est peut-être quelquefois très grand, il vaut même mieux être serviteur de Thomas d'Aquin pour donner quelque chose de grand que de former soi-même sa théologie, petite théologie. Parce qu'on n'est pas un saint, tandis qu'avec Thomas d'Aquin, on sait que sa foi était grande. C'était la foi d'un saint, c'était la charité d'un saint. C'était l'espérance d'un saint. Alors, il faut prendre Thomas d'Aquin, très bien, mais entrer dans l'intention de saint Thomas et ne pas seulement développer et manifester le caractère scientifique de la somme. Faire comprendre le contenu théologique, le contenu sapientiel. Voyez donc que la théologie mystique demande ce développement de la parole de Dieu dans sa signification ultime. D'amour personnel. Je crois que si on a ce souci-là, saint Thomas nous aide beaucoup à avoir une théologie scientifique. Et si on n'a pas de théologie scientifique, on ne peut pas faire de théologie mystique. Pourquoi ? Est-ce que je peux devenir un spécialiste de la théologie biblique ? Est-ce que je peux être un spécialiste de la théologie de l'Église ? Puis-je être un spécialiste de la théologie scientifique ? Non. La théologie est sapientiale. Elle est sagesse. Qui dit sagesse répugne à être spécialiste. Parce qu'on atteint quelque chose d'ultime qui rayonne sur tout le reste. Je ne peux pas enseigner la théologie mystique sans la théologie scientifique. Je ne peux pas enseigner la théologie biblique sans la théologie scientifique. Je ne peux pas la théologie de l'Église sans la théologie scientifique. La théologie scientifique est l'armure, la structure de toutes ces parties de la théologie. Et on s'appuie dessus pour développer une théologie mystique, une théologie biblique, une théologie de l'Église. Pourquoi ? Parce que si je n'ai pas l'intelligibilité de la parole de Dieu, je ne peux pas comprendre que cette parole est au service de l'amour. Je ne peux pas comprendre le devenir de cette parole. Je ne peux pas comprendre comment elle se transforme du dedans pour être le patrimoine. La théologie scientifique a ceci de propre, c'est qu'elle est indispensable pour toutes les autres parties de la théologie. Et les autres parties de la théologie vont, en quelque sorte, permettre à la théologie scientifique de se développer dans tel sens différent. Et c'est pour ça que saint Thomas est si grand, parce que pour faire une théologie scientifique, je crois que c'est impossible de la faire sans Thomas d'Aquin. Toutes les autres, forcément, sont ou des théologies mystiques, ou des théologies bibliques, ou des théologies de l'Église. Et on va chercher un lieu pour développer telle partie de la théologie, alors que c'est en vivant de la théologie mystique, de la théologie scientifique, qu'on a l'armure forte de ce que c'est que la théologie comme sagesse. Parce que je ne peux pas faire l'économie de l'intelligence. Chaque fois que vous faites un acte de foi, vous faites un acte d'intelligence. La foi est reçue dans l'intelligence. Et donc, je ne peux pas séparer intelligence et foi. Je les distingue, mais je ne les sépare pas. Et c'est pour cela que si on a été formé par une philosophie erronée, je connais en France un philosophe spécialiste de Kant qui s'est converti. Alors, constamment, dans sa conversion à la foi, il était obligé de dire, tiens, ça ne colle pas. Parce que son intelligence n'était pas développée en vue de la vérité. Et son intelligence n'avait pas découvert l'être. Alors, l'intelligence de ce théologien n'était pas entièrement au service de la foi, servante de la foi. Elle ne pouvait pas. Il y avait une partie de son intelligence qui débordait et qui était en dehors. C'est très important de se rappeler qu'il faut une philosophie réaliste pour ne pas être gêné par la foi.